regardez vos montres à gousset et autres téléphones portables, il est exactement 20h sur Radio G. J'espère en super forme, j'espère que la quinzaine s'est bien passée pour vous. C'est Quasar on the Air, l'émission bimensuelle de Quasar, l'association Loi 1901, mais également centre lesbien, gay, bi, trans et intersexe plus d'Angers et du Maine-et-Loire. Tout ça, vous mettez dans un checker toutes ces identités, toutes ces thématiques et vous obtenez Quasar, qui est situé 15 rue de Jérusalem à Angers, entre, on va dire, la rue des Banchets et le boulevard des Deux-Croix, et puis plus généralement entre l'avenue Pasteur et le cimetière de l'Est, pour vous repérer géographiquement. Alors une quinzaine assez mouvementée où nous préparions fébrilement l'attente des annonces de la réforme des retraites et puis non, c'est repoussé. Et surtout, est-ce que les conservateurs ont réussi à faire le mieux dans leur vie, c'est-à-dire, et y compris TMPMP, de s'affoler à Noël lorsque des drag queens racontent Noël aux enfants. Alors vous comprenez, là le monde va mal, il tourne mal parce que les dragues contactent les enfants. Ça va être compliqué la vie pour eux. On en rigole, mais finalement, heureusement que les dragues sont là pour toujours dire et faire les choses. Allez, on ouvre ce Quasar on the Air avec une thématique dont je vais vous parler dans quelques instants. Simplement pour ouvrir les pages de l'agenda, ça me paraît la moindre des choses. Alors, sur votre agenda, vous cochez tous les samedis de 17h à 19h les permanences 15 rue de Jérusalem dans nos locaux. Et en ce mois de décembre, 24 et 31 décembre seront bien assurés. Donc, si vous avez besoin de passer faire un coucou, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie ou qui vont bien au contraire, si vous voulez nous apporter des petits chocolat ou en faire profiter les permanenciers et permanencières, bienvenue à Quasar. Vous notez également les dates du mois de janvier, les 7, 14, 21 et 28 janvier. En ce qui concerne la fin de l'année, lundi 26 décembre, ce sera le conseil, la réunion du conseil d'administration de Quasar. Les adhérents sont les bienvenus. Et tout de suite, nous jetons un coup d'œil également sur l'agenda de janvier 2023, parce que c'est important, nous y sommes déjà, puisque bon nombre d'entre vous sont en pause et attendent de reprendre fébrilement le mois de janvier. Mais avant, eh bien, on ouvre l'agenda et au mardi 3, plusieurs choses. On note une intervention au milieu scolaire à la MFR Noyan pour les élèves le matin. Et puis le transparent, le même mardi 3 janvier, aura lieu de 19h à 21h. C'est la réunion des parents, des personnes, des familles, des personnes transgenres à genre et non-binaires qui viennent discuter, interroger d'autres personnes transgenres et non-binaires de l'association. Mais les personnes concernées de leur famille ne sont pas là, ce qui libère largement la parole. Le jeudi 5 janvier, ça sera un nouveau numéro de Quasar on the Air. Comme vous pouvez déjà le noter, le 19, on nous retrouverons de 20h à 21h. Samedi 7, en plus de la permanence, de 15h à 17h, il y aura une autre permanence, mais cette fois-ci pour les 15-25 qui s'amusent entre eux, qui peuvent jouer également, puis aborder des tas de sujets. Si vous êtes concerné, vous avez des questions, vous voulez voir des thèmes abordés, vous contactez Alex, vous venez le voir, notamment, et puis tous ceux et toutes celles qui seront là. Le samedi 14 janvier, Transkids. Attention, nouveau rendez-vous pour Quasar et la Team Trans Inter. C'est un nouveau rendez-vous de 15h à 17h avec uniquement pour les mineurs transgenres, à genre et non binaires. Un temps qui a été pensé pour eux, pour elles, pour pouvoir se retrouver entre copains, copines et puis pouvoir papoter et s'amuser. Donc Transkids, le samedi 14 de 15h à 17h. Le mardi 17, une réunion importante, celle du CORA, le comité opérationnel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines anti-LGBT. Ce sera à la préfecture de Maine-et-Loire. Le jeudi 19 de janvier, donc Quasar Anzière. Et puis deux jours après, le samedi 21, à nouveau une permanence 15-25 de 15h à 17h, puisque c'est la permanence généraliste qui prendra le relais à 17h. Et puis un autre temps de transat de 15h à 17h aussi en même temps, mais comme on a plusieurs locaux, plusieurs pièces, on en profite. Le transat, pour le rappeler à ceux et celles qui ne le savent pas, eh bien c'est ce temps non mixité pour les personnes transgenres, à genre et non binaires qui se rencontrent entre elles, entre eux, et qui papotent de leurs questionnements, de leurs difficultés, de leurs facilités. Voilà, c'est un moment important. Et puis notez sur l'agenda pour finir le mois, le vendredi 27 janvier, une formation spéciale qui sera offerte par Quasar et la Team Trans Inter à propos de l'accueil des personnes neuroatypiques, c'est-à-dire en gros toutes les personnes qui sont dans le spectre de l'autisme, savoir comment mieux les accueillir, comment ne pas être dérangeant et comment se comporter au mieux. C'est ce que nous proposera Elliot du centre LGBTI+ de Normandie. Pour un numéro spécial bilan 2022 et perspective 2023, Quasar Anzière, en cette période de Noël, voici Wham, George Michael, Last Christmas. Avec ce clip officiel qui est quand même qui était très 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 hétéro quand même, Last Christmas avec les Wham et surtout George Michael. Quasar on the Air est un spécial bilan 2022, perspective 2023. Alors, sur la thématique du droit d'asile, nous aurions pu inviter les membres du pôle droit des étrangers de Quasar qui vous en auraient parlé en long, en large, en travers, mais nous nous sommes dit que dans ce Quasar on the Air, nous pourrions aussi appeler des partenaires, des gens que nous connaissons bien et que nous aimons bien. C'est l'Ardis à Paris avec Aude Lemoulec qui est la présidente. Bonsoir Aude.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes et à tous.
Alors l'occasion nous est donnée de papoter un tout petit peu pour faire le bilan. Alors on peut peut-être rappeler juste avant que entre Quasar, Ardis et plein d'autres associations nationalement, on se connaît bien puisque on se parle à travers des listes de diffusion et on s'organise aussi pour traiter de la question de l'accueil des personnes en demande d'asile, garçons ou filles, sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, voire l'état de santé. Donc nous ne sommes pas des étrangers les uns pour les autres, c'est pour ça qu'on va se tutoyer tranquillement. Donc, d'expliquer peut-être en quelques mots, si tu veux bien, l'activité de l'Ardis sur la région parisienne pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas.
Bien sûr, mais d'abord, merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Alors, l'Ardis, c'est une association qui a été fondée en 1998 et autour du combat du PACS. Et le premier combat de l'Ardis, c'était de permettre aux partenaires étranger ou à la partenaire étrangère dans un couple binational de rester sur le territoire, puisque avant le PACS, il n'y avait pas de moyen, pas d'union légale pour les couples homosexuels et donc pas de moyen de faire rester les partenaires étrangers sur le territoire.
C'était très très marquant à l'époque, vraiment.
Effectivement, c'est vraiment l'acte de naissance de l'Ardis. Et puis, en fait, au sein de l'association, il y a une question qui a pris de plus en plus d'importance. C'est l'exil des personnes LGBTI qui sont persécutées dans leur pays d'origine. Et donc, tout ce qui est la question du droit d'asile. Et c'est aujourd'hui la plus grosse part de notre activité puisqu'on accompagne plusieurs centaines de demandeurs et demandeuses d'asile LGBTI dans la procédure. À la fois, et c'est des choses que vous connaissez très bien à Quasar, à la fois dans la procédure d'asile qui consiste à expliquer son histoire, à convaincre les institutions d'asile de son orientation sexuelle ou son identité de genre. Mais on propose aussi des activités conviviales qui permettent à ces personnes qui n'ont pas pu vivre leur homosexualité, leur identité de genre, leur expression de genre dans leur pays d'origine, on leur propose des espaces de convivialité où ils peuvent s'exprimer comme ils le souhaitent, comme elles le souhaitent, et les aider à accepter l'orientation sexuelle.
Alors, dans ces activités que vous proposez, de mémoire, il y a aussi un pan très important à la santé sexuelle, c'est-à-dire que quand on arrive dans un pays où l'homosexualité, on ne court pas le même risque qu'au pays, la vie sexuelle peut s'ébrouer gentiment, mais avec le risque de contamination, donc il est important de connaître tous les astuces.
Absolument, et il y a une étude très importante qui s'appelle l'étude Parcours qui a suivi des personnes qui venaient d'Afrique subsaharienne et qui montre que contrairement à ce qu'on pouvait imaginer auparavant, les personnes n'arrivent pas avec une maladie, mais elles se contaminent sur le territoire français pour 30 à 50% d'entre elles, et particulièrement, et on l'a vu particulièrement pour les femmes, dans la première année d'arrivée sur le territoire, et c'est très largement dû à la grande précarité de la situation. Et à bien des égards, alors c'est plutôt une étude qui a été menée sur des personnes hétérosexuelles, avec une sexualité hétérosexuelle, mais à bien des égards, on sait, on voit des choses similaires dans les personnes qu'on accompagne, et donc effectivement, c'est un public qui est particulièrement exposé au risque de contamination, et que c'est vraiment dû à la très grande précarité, à la grande défaillance de l'accueil des personnes étrangères qui fuient leur pays en France.
Alors justement, défaillance, tu as prononcé le mot qu'il fallait, et la grande impuissance parfois dans certaines situations des assos, comme par exemple lorsque des personnes LGBTI plus russes nous demandent de l'aide à l'étranger, on est vraiment très très impuissant et c'est très compliqué. Alors pour 2022, vous, votre activité, est-ce un retour d'avant Covid? Est-ce que c'est pas tout à fait le cas encore? Et quels sont les principaux points dont tu voudrais nous parler de difficultés ou d'améliorations?
Alors, nous, il y a beaucoup de nos activités conviviales justement qui ont été interrompues par le Covid, et je dois dire qu'on n'a pas repris des très grandes réunion avec plusieurs, enfin 100 personnes, peut-être 200 personnes, et ça on n'a toujours pas pu reprendre, et on sait que ça manque beaucoup pour les personnes qu'on accompagne. On sait que le collectif il manque, je pense dans toutes les associations, mais c'est il ça. Manque beaucoup pour les personnes qui justement souffrent de l'isolement et ont besoin en fait de rencontrer d'autres personnes comme elles entre guillemets pour se construire ou se reconstruire. Donc sur ce plan de la convivialité, on n'est pas, je pense, encore revenu à l'avant Covid. Après, sur l'accueil des personnes, nous, on constate depuis très longtemps une augmentation des personnes qui nous sollicitent, et on constate surtout, et ça c'est très important, qu'il y a de plus en plus de personnes qui n'ont vraiment aucun soutien de l'État. Ça s'appelle les conditions matérielles d'accueil, c'est à la fois une allocation ou une proposition d'hébergement, et on s'aperçoit que de plus en plus de personnes qui demandent l'asile se voient refuser cette aide.
De la part de l'OFIP qui le gère.
Tout à fait. Souvent au motif qu'elles sont passées par une procédure qui est très kafkaïenne, qui s'appelle la procédure Dublin. Mais ce qu'on constate, en fait, ce sont des personnes qui sont plongées dans une situation terrible, qui est qu'elles sont privées de tout droit de subvenir à leurs besoins, parce qu'elles sont privées du droit de travailler. Et donc, c'est des personnes qui sont censées vivre de rien du tout pendant les très longs mois que dure une procédure d'asile. Ça peut aller de 6 mois dans le meilleur des cas à un an et demi peut-être même plus, dans les pires des cas. Donc c'est une très très longue attente de ces personnes qui vraiment sont plongées dans une très très grande précarité. Et ça, je pense qu'on, comme tu disais, on le constate tous sur le terrain.
Oui, effectivement. C'est une vraie problématique, hein. Et également sur l'hébergement. Enfin, c'est terrible, quoi.
Et ça contraste beaucoup cette situation qu'on rencontre avec l'accueil qui a été réservé aux personnes qui fuyaient la guerre en Ukraine, enfin aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes. Mmh. Moi, je pense qu'il faut vraiment se réjouir de l'accueil qui a été, la solidarité qui s'est déployée pour ces personnes. Mais on constate, ça a été aussi un moment où on a vraiment constaté une immense différence de l'État. Enfin, on s'est rendu compte en fait que quand l'État voulait, l'État pouvait tout à fait bien accueillir des personnes qui fuient les persécutions, la guerre, les difficultés, etc. Et que l'État pouvait tout à fait déployer, ouvrir le droit de travailler, ouvrir l'accès à la santé, enfin la sécurité sociale sans réserve, sans période de carence, pouvait héberger les personnes, pouvait mettre à l'abri sans difficulté. Alors, d'ailleurs, c'est des gens qu'on a assez peu vus, nous. Enfin, je ne sais pas si je vois à quoi ça, mais finalement, c'est des gens qui se sont peu présentés aux associations parce que finalement, l'État faisait son travail.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours la spécificité quand même de l'orientation sexuelle où les autres structures dites généralistes ne sont pas toujours à l'aise et renvoient vers les assos localement, c'est vrai. Est-ce que tu as constaté d'autres points très importants, nouveaux finalement en 2022?
Je pense que la grande affaire de 2022, elle est d'abord politique, et c'est l'élection de plus de 80 députés de l'extrême droite, du Front National, peu importe comment ça s'appelle aujourd'hui, et qui va marquer assez durablement la vie politique, en tout cas pour les 5 prochaines années. Et c'est vraiment les discours racistes, xénophobes, hein, qui se déploient sans réserve, sans limite, sur différents canaux. Et ça, c'est effectivement très inquiétant et je pense qu'on va en parler, on va en dire quelques mots pour 2023.
Alors, on peut dire que les vannes sont véritablement définitivement ouvertes là, si on a bien compris le mode d'action de ce groupe-là et de ses partisans. Pour la perspective 2023, alors faisons un grand bond maintenant de quelques semaines, voire de quelques mois. L'affaire, c'est quand même le projet de loi asile et immigration qui va être discuté, dont on commence à avoir quelques éléments, deuxième texte de préparation, qui devient de plus en plus inquiétant.
Tout à fait. Alors d'abord, je pense qu'il faut rappeler, hein, aux côtés d'autres associations qui sont spécialistes sur ces questions, que ces textes sur l'asile et l'immigration se succèdent très très rapidement. Je crois qu'il y en a eu plusieurs dizaines en quelques années. Et du coup, on constate cette inflation législative qui est censée répondre à ce qui est qualifié de problème, l'immigration. Finalement, qu'est-ce que ces textes apportent ? Ben, ce qu'on constate, nous, c'est une réduction des droits de personnes qui fuient leur pays parce qu'elles y sont persécutées. Alors, la question, c'est ce qu'on voit également, hein, c'est une volonté de l'État de mieux prendre en compte les besoins des demandeurs et demandeuses d'asile LGBTI, par des espèces de plans, enfin bon, des plans sur les LGBT-phobies, des plans sur les vulnérabilités, mais au fond, avec des projets de loi comme celui qui s'annonce pour 2023, hein, on s'aperçoit que on va priver tous les demandeurs d'asile, toutes les demandeuses d'asile, de droits très importants, le droit de recours, le droit à avoir sa demande devant la cour examinée par trois juges au lieu d'un, le droit de travailler également. On va priver les demandeurs et demandeuses d'asile, et les demandeurs et demandeuses d'asile LGBTI seront touchés comme les autres. Et peu importe les petites mesurettes qu'on peut obtenir par ailleurs, dans des plans qui concernent que quelques dizaines de personnes, on s'aperçoit que quand on réduit les droits de toutes et de tous, ben ce sont les plus vulnérables qui sont impactés en premier, et les personnes LGBTI ne font pas exception à cette règle.
Donc, on rappelle quand même que le texte, d'après ce que tu as évoqué, prévoit surtout un gros coup de butoir contre la Cour nationale du droit d'asile, parce que on rappelle que c'est le niveau d'appel, justement, des décisions quand l'OFPRA a rejeté la demande d'un demandeur ou d'une demandeuse. Et donc, c'est bien ça qui est en cause, là, entre autres, hein, dans le texte, et la limitation des droits, notamment du travail, ce qui est très paradoxal avec ce discours gouvernemental qu'on a entendu sur on a besoin de, pour certains métiers prétendument en tension, de main-d'œuvre. Et donc, on va accueillir les gens uniquement au regard du travail et non pas de la qualité ni des persécutions poursuivies. Ce qui est quand même, faut quand même se le dire, et ça va être un argument qu'il va falloir travailler, c'est quand même la négation pure et simple du droit d'asile tel qu'il est défini par les textes internationaux, finalement, au bout du compte.
Tout à fait. On voit vraiment qu'il y a un démantèlement, enfin, du système de l'asile en France, notamment la Cour nationale du droit d'asile, notamment l'indépendance de l'OFPRA qui serait décentralisée. Il y aurait certains agents de l'OFPRA qui recueilleraient, qui enregistreraient la demande d'asile au sein des préfectures, qui placeraient les agents de fait au sein des préfectures sous l'autorité de l'État. C'est vraiment une atteinte à l'indépendance de l'OFPRA. C'est un démantèlement de la Cour nationale du droit d'asile, avec des cours qui seraient dans les cours administratives d'appel, et peut-être dans l'objectif, au fond, qu'un jour, il n'y ait plus de spécificité du contentieux de l'asile, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus, en fait, de spécificité de cette justice-là, mais que ça rejoindrait les tribunaux administratifs, le droit administratif, en fait. Donc oui, c'est vraiment un démantèlement, à bien des égards, du système d'asile, au motif qu'il faut accélérer, au motif qu'il ne faut pas que les gens puissent créer des droits, en fait, en restant sur le territoire. Mais nous, pour les personnes qu'on accompagne, pour les personnes LGBTI, on sait que ce temps, alors c'est souvent trop long, mais il est parfois quand même nécessaire pour que les personnes puissent exprimer leur demande, qu'elles puissent rencontrer des associations spécialisées. Et ce n'est pas que pour la procédure, c'est rencontrer d'autres personnes LGBT, c'est essayer d'oublier, enfin en tout cas de mettre à distance un contexte LGBT-phobe où ils ont toujours vécu et de découvrir, d'apprendre, d'explorer de nouvelles façons d'affirmer, d'accepter qui elles sont ou qui ils sont, de rencontrer d'autres personnes pour voir que c'est possible, pour découvrir, échanger, voilà, pour faire ce que pour être qui elles ont envie d'être, en fait. Et donc on sait que ce temps-là, il est important, et c'est complètement contradictoire avec cette accélération vraiment très technocratique. C'est vraiment des mesures pour, c'est comme prendre des ciseaux et couper du temps dans la procédure, et au final c'est une vraie réduction des droits des personnes, une vraie atteinte aux garanties qui sont des garanties fondamentales dans le droit, c'est le droit de recours notamment.
Voilà, et ça c'est la perspective 2023 et les combats qui viennent. Il y a également un nouveau local qui va s'ouvrir pour l'activité de l'ARDIS. On vous souhaite plein de bonnes choses quand même pour 2023, de pouvoir développer et retrouver votre niveau pour la convivialité. Et on te remercie Aude, c'était Aude Lemoulec, la présidente de l'ARDIS. Bonne soirée à toi.
Merci Stéphane, bonne soirée.
Au revoir.
Radio-G. 101.5 FM.
Je vous déclare ma flamme, enfin pas que la mienne, celle de Juliette Armanet. Titre éponyme, la flamme, c'est simple, non? Vous l'aviez compris? 20h26, Radio-G, Quasar Anzière.
J'en aurais passé des jours à te faire des chansons d'amour, au piano toutes mes thèmes, au style de tout mon game. Jour après jour après jour, je ne sais que parler d'amour.
Quasar Anzière, spécial bilan 2022, perspective 2023. Nous accueillons une nouvelle invitée que nous connaissons bien à Angers et à Quasar Anzière. C'est Isabelle Corbino, bénévole écoutante de Contact 49. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Alors, on t'a contacté, c'est le moment de le dire, pour faire un peu le bilan, donc, pour vous, Association Contact 49, et puis plus largement, voir ce qu'on pourrait dire de la vie associative angevine dans cette année 2022. Donc, pour vous, quels sont les grands axes, quels sont les points marquants de l'année 2022 dans votre activité, que tu peux nous rappeler en deux, trois mots?
Oui, ben alors pour nous 2022 c'est un peu l'année de la renaissance. C'est vrai que 2021 on était plutôt en difficulté au niveau du nombre de bénévoles. Toutes les associations ont un peu subi un coup de mou avec le Covid et nous on en a fait partie également. Donc là on a de nouveaux bénévoles qui sont arrivés avec plein d'énergie et qui nous ont aidés à construire une association un peu plus effective dans le mode de fonctionnement, ou efficace en tout cas dans le mode de fonctionnement. Et puis on a eu la chance là au mois d'octobre de pouvoir former deux personnes, une personne à l'écoute en plus et puis une personne pour les interventions en milieu scolaire. Donc on va mettre en place tranquillement sur 2023. On a été un peu gourmand en se disant qu'on pourrait le faire dès 2022, mais bon, voilà, on prend le temps de faire les choses comme il faut et pouvoir intervenir dans les écoles dans de bonnes conditions. Et puis la mise en place de la supervision, j'y tenais particulièrement à cœur parce que bon, moi comme un autre écoutant, on est formé depuis maintenant 2015, 2014, et puis bah ça fait pas de mal de re-questionner les personnes, comment est-ce qu'on peut accueillir les personnes, qu'est-ce qui nous pose question à nous, et voilà, on a fait notre première supervision avec tous les écoutants de contact, écoutantes, et vraiment on a ça nous a aidé à re-questionner notre façon d'accueillir les personnes qui nous demandent soit des entretiens individuels comme toujours, soit ceux qu'on peut recevoir via la ligne d'écoute nationale, soit les groupes de parole dans lesquels les personnes viennent intervenir, se questionner leur acceptation, enfin voilà.
Et pour celles qui ne connaîtraient pas le principe de la supervision, matériellement, ça veut dire quoi? Intervention extérieure ou vous vous retrouvez?
Oui, bah, ça veut dire qu'en fait, on a un psychologue fait déjà la même chose pour SOS Amitié. SOS Amitié, c'est une ligne d'écoute plus généraliste, mais qui fonctionne sur le même type d'écoute que nous, c'est-à-dire non directive. On accueille la personne telle qu'elle est et l'idée, c'est d'aider cette personne à trouver ses propres ressources pour avancer dans la problématique ou dans les questionnements dans lesquels elle est, quoi. Voilà.
Alors, donc là, tu nous parlais finalement de l'organisation interne, de ce qui allait mieux, oui, après le moins bien. Oui. Est-ce que ça veut dire que les demandes sont toujours les mêmes de la part des publics qui vous contactent? D'abord, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les profils? Et puis dire s'il y a eu des modifications, une augmentation, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça en 2022?
Oh, ben, pour 2022, je dirais plutôt, il y a eu vraiment des rendez-vous. Il y a eu beaucoup de monde et des rendez-vous, il y a eu moins de monde sur les groupes, en tout cas. La ligne d'écoute, elle est toujours très active et ça depuis 2020. Voilà, peut-être. Après, on a changé de créneau aussi en 2020 d'écoute, donc on n'écoute pas sur la même journée, ce qui fait peut-être une différence.
Alors, on rappelle un point.
Oui, nous, on écoute sur un seul créneau un jour de la semaine, mais tout le reste des départements de France font que, du coup, vous pouvez appeler tous les après-midi et les soirs, du lundi au samedi.
Donc, ça veut dire qu'en réalité, la ligne est ouverte du vendredi,
du lundi au samedi,
mais que les écoutants ne sont pas forcément vous systématiquement, ça peut être d'autres écoutants d'autres départements, c'est bien cela.
Exactement, oui.
D'accord.
Qui sont tous formés de la même façon à l'écoute au niveau national.
Et donc, c'est une ligne nationale et pas uniquement pour le 49. Hein, c'est ce qu'on...
Voilà. Et puis, les personnes... l'écoutant pourra dire son prénom, mais c'est pas forcément... on n'est pas là pour... On peut parler de notre histoire un peu quand ça fait vraiment écho et que ça peut aider. Mais l'idée, c'est surtout de pouvoir accueillir la personne dans ce qu'elle vit et ce qui se passe pour elle dans le moment et ce qui fait qu'elle appelle, quoi.
Oui, et puis surtout, laisser maturer ensuite, parce qu'on sait qu'il faut un certain temps en général pour que les personnes aussi avancent étape par étape. D'accord.
Donc, alors oui, et du coup, les publics, les personnes qu'on reçoit, ça peut être des personnes en questionnement sur l'identité de genre comme sur l'orientation sexuelle, les deux. Alors, c'est sûr que bon, voilà, le mouvement est bien sûr plus présent sur les personnes qui ont des questionnements d'identité de genre aujourd'hui, mais on reçoit encore des questions d'orientation sexuelle. On reçoit aussi les proches. La plupart du temps, quand on parle de proches, on parle de parents, mais ça peut être aussi des frères, des cousins, des grands-mères, des conjoints, conjointes, oui. C'est un peu plus rare et du coup, c'est un peu plus délicat. Souvent, quand on parle de conjoints, conjointes, ça peut être la femme qui vient nous rencontrer parce que son époux lui indique une attirance sexuelle vers les hommes et du coup ben ça veut dire séparation. Et là on n'est pas dans la situation où on se retrouve à continuer la relation avec une personne telle que la famille par exemple. Là il y a rupture de relation, en tout cas il y a changement de relation.
Nous, on a les cas où, effectivement, ce sont les conjoints ou conjointes dans des couples de personnes transgenres. Et ça, et il y a maintien du lien.
Ah oui, oui. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas eu, mais ça peut aussi être une question, bien sûr. Tout à fait.
Donc, parmi les publics, et en point de vue nombre de personnes, vous estimez qu'on est revenu à un étiage à peu près semblable avant la période Covid, début 2020 ?
En termes de personnes venant participer aux événements, alors on fait moins de rendez-vous individuels qu'on a fait.
D'accord. Et les GEP, par exemple, les groupes d'écoute et de parole.
Sur les groupes d'écoute et de parole, on est, comme je te disais, c'est très variable, mais on a fait des groupes à 15-20 personnes et des groupes à 4. Voilà.
Oui, c'est ça. C'est
et par contre, on a décidé d'arrêter les groupes de parole en distanciel parce que on voyait de moins en moins d'intérêt et de plus en plus d'attentes de groupes en présentiel. Voilà.
Ça, c'est
mais voilà, on peut très bien s'autoriser à le remettre si on a des demandes. Voilà.
Alors, ça, c'est la réalité 2022. Et dans le vécu associatif angevin de l'année, quel bilan?
Moi, ce que je trouve intéressant sur cette année, c'est le rapprochement qu'on a eu entre les associations, du fait de la Pride, mais surtout du fait de l'événement de septembre que vous avez proposé, le rassemblement associatif. Et puis, on se rapproche un peu plus avec Quasar, je trouve, tout en gardant nos spécificités. Et je pense qu'il y a moyen de... On a eu notamment des réunions de travail, de questionnements ensemble sur ce qu'on pourrait faire. Il y a eu le Tidor récemment qui a été un événement assez fort sur lequel nos assos ont été présentes. Je vois comme une dynamique plus collective, interassociative qui est en train de reprendre. De reprendre, oui. Ouais, oui, parce que peut-être elle était... En tout cas, il y a quelque chose à faire qui me semble très intéressant dans porter la voix des personnes qui viennent nous rencontrer pour faire avancer les choses. Et voilà, malheureusement, même si à Contact, on n'est pas dans du militantisme, on se rend compte qu'on est dans une situation où on va devoir participer peut-être à des actions pour poser, faire avancer les choses. Quoi.
Alors justement, sur ces avancées potentielles, perspective 2023, quels seraient toi les 2, 3, 4 points essentiels à mettre en avant ?
Stéphane, on n'en a pas parlé avant, mais j'aurais bien aimé t'en parler avant d'en parler à tout le monde.
Non, mais en général, pas les choses organisationnelles
Oui, non, en général, moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des événements pour chaque date spécifique dans le calendrier, le Tidor, le Tidov, l'Idao, et des événements interassociatifs. Ça, ce serait chouette d'avoir ça, qui permettrait de donner plus de visibilité sur ce qu'on fait. Il y aurait peut-être la possibilité de travailler sur des espaces de sensibilisation grand public à plusieurs associations. Il y aurait voilà bon, à la Pride bien sûr toujours comme tête de gondole on va dire de présentation de ce qu'on fait et de donner à voir qui on est et comment la vie associative LGBT est dynamique sur Angers quoi voilà sur Angers sur le Maine-et-Loire quoi voilà.
Tout à fait.
Et après voilà je voyais ça et puis bah un suivi très sérieux et attentif sur les décisions qui sont en cours au niveau national et les impacts régionaux ou départementaux, quoi. Voilà.
Alors, on ne revient pas sur la partie droit d'asile, puisqu'on en a parlé très longuement avant avec Aude Moulec de l'ARDIS. Néanmoins, ça serait un point important que nous, on portera, mais on en reparlera.
Bien sûr.
Sachant que pour la Pride, le mot d'ordre a été déjà préparé, va être validé à la rentrée le 9 janvier, et on aura l'occasion d'en reparler très largement. Un grand merci, Isabelle, d'avoir partagé ce temps avec nous.
Eh bien, merci à toi et merci à Quasar pour nous proposer de prendre la parole et présenter Contact.
Et
À
belle
très
fête.
bientôt pour de nouvelles aventures.
Bise, au revoir.
Bisous.
incontournable Boogie Wonderland des Earth, Wind and Fire.
Radio G, 101.5 FM.
Quasar on the air, spécial bilan 2022, perspective 2023. Nouvelle invitée en direct au téléphone. Nous prenons la direction de la Charente-Maritime avec Frédéric Hay, président de ADEOS. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous et à toutes.
Alors, on rappelle quand même, pour ceux et celles qui nous suivent assez fréquemment, qu'ADEOS est un partenaire voisin, éloigné, mais voisin du cœur quand même, de Quasar. Et on échange assez régulièrement tout au long de l'année, au moins dans Quasar en d'hier, sinon très régulièrement au téléphone et dans les échanges avec notamment la fédération LGBTI à laquelle nous appartenons, nos deux structures. Fred, alors si je te dis bilan 2022, que vas-tu me répondre, toi qui as un regard très politique ?
Oh, bilan 2022, c'est la sortie, enfin, du Covid et des effets néfastes du Covid au niveau du tissu associatif. On l'a vu, nous, sur le dernier semestre. Depuis le mois de juin, en fait, on a enfin le renouveau militant, puisque que ce soit ADEOS ou que ce soit Quasar, nous sommes avant tout des associations qui sont structurées autour de militants, à 100%. Nous n'avons pas de salariés. Et les deux dernières années de Covid nous ont quand même, comme beaucoup d'associations, mis un peu en difficulté en termes de, non pas de demande. La demande est toujours présente.
Toujours là,
forte, voilà. Mais en termes de possibilité d'y répondre convenablement, avec deux axes très très forts en termes de demande et de développement, c'est la partie droit d'asile des personnes LGBTI liées à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, et la question toujours transgenre avec de plus en plus de jeunes mineurs et parents qui continuent à venir régulièrement, quasiment quotidiennement, pour se renseigner, demander des conseils et même, si possible, un accompagnement. C'est là tout la difficulté du quotidien. On n'a pas forcément les moyens humains de répondre à toutes les sollicitations. Voilà, et puis le dernier moteur un peu en termes de demande, je pense qu'au niveau de Quasar c'est pareil, on a beaucoup de sollicitations qui viennent de l'étranger, et notamment du continent africain, où malheureusement la situation empire mois après mois, année après année, c'est un constat d'échec, je dirais, sur tout le continent africain. Il n'y a pas un pays pour sauver l'autre en matière de respect des droits des minorités sexuelles, des droits des personnes LGBT. On a de plus en plus d'informations inquiétantes, des pays qui étaient stables, qui ne le sont plus. Bien la nécessité pour beaucoup, ceux qui le peuvent, d'arriver chez nous pour demander l'asile. Et ce qui m'inquiète, c'est tous ceux qui ne peuvent pas et qui restent au pays et qui sont massacrés. Voilà. Donc c'est un mouvement de fond qui nous inquiète beaucoup. Ouais, alors, je suis désolé.
On a parlé de la situation avec Aude Lemoulec tout à l'heure de l'ARDIS en direct et la prévision de ce funeste texte de la loi Asile Immigration à venir. Pour revenir sur l'aspect justement des demandes extérieures, on s'aperçoit qu'on est extrêmement impuissant. Ou est-ce qu'il y a une capacité, une possibilité quand même que vous avez mise en place, vous, à ADEOS, à Sainte, à Angoulême notamment?
Alors, il y a des capacités, mais qui sont extrêmement réduites. On arrive à sauver une, deux, trois personnes, quatre personnes dans l'année. Bon, pour ce qui est de l'expérience d'ADEOS, on a évacué des militants LGBT du Mali, du Maroc, du Sénégal, de Tunisie, et même de Kaboul, lorsque l'Afghanistan est tombé. Ce qui est terrible sur l'histoire de Kaboul, c'est que tout le monde savait ce qui allait se passer.
La preuve aujourd'hui.
Bien sûr, tout le monde savait exactement ce qui allait se passer. Personne ne donnait de visa au mois de juin avant que Kaboul tombe dans l'été. Voilà. Et il y a même des pays qui en profitaient. Je pense à la Turquie qui faisait des visas à 600 dollars, ce qui est complètement des sommes déraisonnables par rapport au niveau de vie là-bas en Afghanistan. Et on a des autorités consulaires qui, au mois de juin, disaient non à une demande de visa, largement argumenté en disant bah, allez, adressez-vous aux Américains, voilà, et puis les Américains renvoyés à d'autres ambassades, etc., etc. La réalité, c'est que personne n'a voulu sauver toutes les personnes afghanes qui étaient nombreuses, qui partageaient nos valeurs, les valeurs occidentales, les valeurs d'égalité, des droits hommes-femmes, etc. Personne autour des Nations Unies n'a voulu sauver toutes ces personnes-là. Et il a fallu l'impact médiatique dans l'été, avec des journaux télévisés quasiment 24/24, avec l'aéroport qui tombait aux mains des forces obscures islamistes traditionnelles afghanes. Et aujourd'hui, plus personne n'en parle. Mais aujourd'hui, le ménage est en train de se faire. Les femmes sont aujourd'hui interdites de cours, interdites d'université, interdites de travail. Quant aux homosexuels,
on n'en parle même pas.
Ah. Voilà.
Je reviens sur un autre axe aussi que tu as exprimé, la demande des familles, des personnes transgenres, à genre et non binaire. Quelle est la situation en Charente-Maritime et sur les deux départements où vous agissez? Est-ce que, comme à Angers, vous êtes dans un marasme total avec des parcours entièrement psychiatrisants, vous arrivez à trouver des solutions intermédiaires et des filières autres qui sauvent les personnes qui ne veulent pas être psychiatrisées, et ce qui est l'autre?
Alors, on arrive à trouver des filières, ce qu'on appelle le parcours libre, et non pas le parcours entre guillemets officiel. Chez nous, c'est Bordeaux, dans la région. Et on a de plus en plus de personnes, et notamment de jeunes, qui, et à juste titre, n'acceptent pas le parcours psychiatrisant. C'est bien normal. De la SOFEC, ex-SOFEC. Maintenant, ils ont dû changer de nom de mémoire.
Oui, mais bon, ils continuent toujours à s'appeler comme ça quand même sur le terrain. Donc, disons les noms. Voilà, il vaut mieux le dire.
Et on arrive à trouver des solutions, on donne des bonnes infos au bon moment. On a des parents d'ailleurs qui, ayant des enfants mineurs, arrivent à pouvoir. Pouvoir trouver des professionnels qui délivrent des ordonnances pour des débuts de prise hormonale. Et au bout de 7 mois, lorsque il faut passer à l'étape au-dessus, après, là, on a un cas récemment où on avait oublié de. Les parents avaient. Ça se passait tellement bien qu'ils avaient oublié de demander la LV.
Oui, c'est ça.
Qui est quand même l'aide.
La prise en charge à 100% pour expliquer à ceux et celles qui ne connaissent pas.
Voilà, la LD31. Et donc, ils ont déposé a posteriori, au bout de 7 mois, une ALD qui a été refusée récemment au motif que pas de protocole, pas de certificat de psychiatrisation, etc. etc.
Bon, heureusement, alors, maintenant ça change. Il y a la décision qui vient de tomber du médecin conseil national. Donc toutes les CPM vont devoir se mettre le petit doigt sur la couture du pantalon. Il nous reste peu de temps, Fred. Vas-y.
Mais cette décision du médecin conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie, elle ne concerne que ceux qui sont en parcours de transition adultes, pas les mineurs.
Ben justement, ça va être l'occasion de traiter la question, et je doute que vous laissiez passer l'occasion, et ça va être juridiquement passionnant.
Exactement.
Il nous reste à peine 3 minutes. Les perspectives pour 2023 pour Adeos?
Perspective pour 2023, on cherchait depuis de nombreuses années à franchir une étape, une marche qui est très haute pour nous, c'est la professionnalisation d'une partie de nos activités. Puisque le militantisme et le bénévolat a aussi ses limites, il faut le reconnaître, dans le contexte que j'ai expliqué tout à l'heure, avec une croissance exponentielle des demandes. Et on a la possibilité sur 2023, et j'espère qu'on pourra le renouveler par la suite, de pouvoir embaucher une personne à plein temps sur Sainte et une autre personne à plein temps au centre LGBTI d'Angoulême, ce qui va nous aider à répondre et à augmenter nos capacités de réponse, nos capacités de traitement, d'orientation, d'information et tout ce qu'on veut. Pour 2023, voilà, ça c'est la bonne nouvelle pour nous. Après 2024-2025, eh bien, il reste à transformer l'essai, à pérenniser ces emplois et pérenniser surtout les financements qui sont à la clé de ces emplois. Voilà. Et là, c'est tous les enjeux que l'on aura à traiter avec l'État français, à l'image de ce qu'il se fait à l'étranger, je pense à l'Espagne, je pense à la Belgique notamment, où nous sommes depuis des années des parents pauvres en matière de financement public, alors que nous exerçons des missions de service public. Et je veux dire, à un moment donné, il était grand temps, un, de reconnaître le boulot qu'on fait, mais deux, il va surtout, et ça va être une prochaine bataille, il va être grand temps de reconnaître ce travail dans la durée et dans la pérennisation des financements. C'est l'enjeu de 2023, et si on réussit, nous serons encore là en 2024. Voilà.
Bah, tout va bien alors. Bah, on espère en tout cas de vous retrouver. Merci beaucoup Frédéric Hay, président de ADEOS, le centre LGBTI+, de Charente-Maritime, mais aussi d'autres. D'un autre département, c'est lequel déjà, vous, le deuxième, c'est...
Alors Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, puisqu'on a une petite équipe sur Niort, voilà. Et on intervient même un peu sur Poitiers, puisqu'il y a malheureusement, il n'y a aucune structure associative qui intervient sur le droit d'asile à Poitiers. On en est dépourvu, c'est bien dommage, et il y a de la place pour tout le monde, je le rappelle.
Bon, merci beaucoup Fred, bonne soirée, ciao.
Merci et à
belle
vous,
fête.
Bonne soirée. Bonne fête.
Radio G. 105 FM.
Avant de nous quitter, mais pas tout de suite encore, quelques instants, nous rouvrons les pages de l'agenda pour le refermer dans quelques instants. Alors vous notez bien les permanences, les 24 et 31 décembre, nous serons bien ouverts de 17h à 19h, permanence habituelle, et en janvier, les 7, 14, 21 et 28. Mardi 3 janvier, intervention milieu scolaire à la MFR Noyan pour le pôle éducation-formation de Quasar. Et puis l'après-midi, le soir, à 19h et jusqu'à 21h, c'est Transparent, le groupe d'écoute et d'échange pour les personnes, des familles qui ont dans leurs membres des personnes transgenres, agenres et non-binaires. Et ils seront reçus par la team Transinter. Le jeudi 5, nouveau numéro de Quasar en d'hier, comme le 19. Le samedi 7, permanence des 15-25 au sein de Quasar 15 rue de Jérusalem de 15h à 17h. Et le samedi 14, Transkids, un nouveau rendez-vous de 15h à 17h pour uniquement les mineurs transgenres, agenres et non-binaires. Pour vous inscrire sur le site internet, vous avez la main. Par Quasar participera le mardi 17 à la réunion en préfecture du CORA, le comité opérationnel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Jeudi 19, Quasar donc. Et le samedi 21, permanence 15-25 à 15h. Transat, la réunion en non-mixité des personnes concernées, transgenres, agents et non-binaires, à partir de 15h aussi. Et puis le vendredi 27, une formation pour l'accueil des personnes neuroatypiques. Et bien voilà, la dernière de l'année émission, je dis la dernière émission de l'année. On se retrouve en 2023, rassurez-vous. On vous souhaite une très très belle soirée, en espérant que vous allez tout de même, dans un contexte économique et social un peu plus difficile cette année que les autres années, passer les meilleurs moments que vous pourrez, vous voir avec les amis et ainsi de suite. Restez LGBTI+, friendly. Et on vous souhaite plein de bonnes choses, le possible et l'imaginable. Et on vous dit à 2023. Bis, 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 bye.
Yes.